Vous êtes sur RTL.
Il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, un service d'urgence qui ferme faute de personnel.
Un cas inédit à Saint-Gaudens, en Haute-Garonne. Une vague d'arrêt maladie conduit à mettre la clé sous la porte temporairement. Nous appellerons Patrick Tégéraud dès le début de ce journal. Un avant-goût de la grève du 5 décembre. Plusieurs dépôts pétroliers sont bloqués en ce moment dans l'Ouest par des entrepreneurs du BTP. Et puis quand les parlementaires font le ménage, des dizaines de lois obsolètes viennent d'être effacées. Mais est-ce que c'est suffisant pour dégraisser le mammouth législatif? Ce sera la question du 8h.
Notre météo, Marina Giraudot.
Oh, un ciel nuageux avec des averses, de la neige sur les reliefs de l'Est, sur les trois quarts du pays, mais il y aura quand même le retour du soleil cet après-midi sur les Hauts-de-France, en Méditerranée et des éclaircies vers l'Atlantique. Côté température, ça va baisser au nord. Il fera entre 8 et 13 degrés. Ça restera doux au sud entre 14 et 19.
Jusqu'à 9h30, RTL Matin.
Quand les urgences se font porter pâle à Saint-Gaudens, en Haute-Garonne, le service a dû fermer ses portes. 6 infirmiers se sont mis en arrêt maladie en même temps. Depuis le mois de juillet, les urgences de Saint-Gaudens réclament la création de 6 postes supplémentaires. Patrick Tégéraud.
C'est une situation inédite. Christine Jurier-Diebolt dirige l'hôpital.
Je ne pensais pas que dans leur vision de leur métier, les soignants puissent en arriver à se dire que le mieux, c'est de se mettre tous ensemble en maladie.
Les grévistes réclament une infirmière de plus 24 heures sur 24 et ce n'est pas du luxe pour Stéphanie Marie Chalon, la chef du service.
Il est arrivé au mois de février que l'infirmier se retrouve seul dans le service avec 35 patients. C'est inaccessible à n'importe quel soignant de pouvoir donner la qualité qu'il voudrait donner aux patients.
La grève, suivie de cette fermeture du service, c'est un traumatisme supplémentaire. Cédric Bellard est médecin urgentiste.
On ne peut pas faire notre métier qu'on aime. On se voit contraint de refuser l'entrée aux patients. Surtout qu'on a l'impression qu'une réponse pourrait arriver rapidement et facilement et on ne l'a pas cette réponse.
Et les patients les soutiennent, comme Robert.
Je suis absolument avec eux. Et ce n'est pas être pour ou contre quelque chose, c'est quand même quelque chose d'humain et qui touche toute notre population. On aime être bien soigné.
Robert est arrivé ici suite à un malaise cardiaque, car bien sûr, le service continue d'assurer les urgences vitales.
Patrick Tégéraud, et pour tous les autres patients, les urgences les plus proches sont au mieux à une demi-heure à Lannemezan, et sinon il faut faire une heure pour se rendre à Toulouse.
Lannemezan.
Exactement. Les hôpitaux comme les écoles, on va y revenir dans un instant, les transports et même la police, de nombreux secteurs seront en grève jeudi prochain contre la réforme des retraites. Dans une note que s'est procuré RTL, le patron de la PJ Paris anticipe, il souhaite la présence d'au moins la moitié des effectifs.
Et vous le disiez Jérôme, de nombreuses écoles devraient être fermées le 5 décembre.
C'est en tout cas ce qu'annonce le SNUIPP, c'est le premier syndicat dans le primaire. Pour le secteur public, la réforme prévoit de calculer les pensions sur l'ensemble de la carrière. Les enseignants estiment qu'ils seront forcément perdants, Marie Guerrier.
Oui, la réforme des retraites met en évidence la rémunération trop basse des enseignants en début et milieu de carrière. Aujourd'hui, la pension est calculée sur les 6 derniers mois d'activité, mais si dans le futur, le calcul se fait sur l'ensemble de la carrière.
On a des pertes qui, même pour quelqu'un qui connaît essentiellement l'ancien système et seulement sur la fin de sa carrière connaît le nouveau système, vont de 1% à 7%.
Jean-Rémy Girard, du SNALC.
Et un professeur certifié né en 2002 qui, lui, ne connaîtrait que le nouveau système. Là, on peut atteindre près de moins 30% sur la pension.
Oui, il y aura revalorisation des salaires, dit le gouvernement, mais rien ne bouge, regrette Frédéric Rollet du SNES-FSU.
On ne sait pas ce à quoi le gouvernement est prêt. Quel effort budgétaire, quel calendrier, quel type de mesures. Tout ça suscite énormément d'inquiétudes et de colère.
Le gouvernement a promis de garantir le niveau de pension des enseignants. La grève du 5 décembre doit être un coup de semonce, selon Gilles Langlois de l'UNSA.
Il s'agit pour tous les enseignants de montrer leur détermination à ce que les engagements du gouvernement soient respectés.
Une modification des grilles de salaire est exclue. La revalorisation passera par une hausse des indemnités qui reste à négocier, dit le ministère, et la création de primes qui entreront désormais dans le calcul des pensions. Des discussions pourraient commencer en janvier.
Marie Guerrier.
RTL Matin, 8h04.
La colère du jour, c'est celle des professionnels du BTP.
Ils bloquent en ce moment plusieurs dépôts pétroliers dans l'Ouest pour protester contre la disparition progressive de l'avantage fiscal qui s'applique au gasoil non routier. C'est le carburant qui sert à faire fonctionner les engins de chantier. Une suppression prévue dans le budget 2020. Les dépôts de Lorient, de Brest, de La Rochelle et de Verne-sur-Sèche, c'est en Ille-et-Vilaine, sont touchés. C'est là que se trouve Pierrick Philippot. Il est entrepreneur en Bretagne.
Le gouvernement souhaite que l'on passe à du diesel classique, qui va nous faire un coût supplémentaire de 50 centimes du litre. Cela représente une évolution à peu près de 10% au niveau du tarif global. Ce qu'il faut savoir, c'est que le GNR est moins polluant que le diesel classique. Nous, ce que l'on souhaite, c'est un retrait. Ce que l'on défend surtout, c'est nos entreprises et puis le pouvoir d'achat. Maintenant, par rapport au 5 décembre, nous, on a notre position. On verra comment ça se passera sur la globalité des grèves aussi, quoi. Pour en avoir parlé avec certains autour de nous, au final, eh ben, on va rester pour l'instant. Il faudra bien que l'on s'en fasse entendre.
Et les manifestants envisagent une poursuite du blocage jusqu'à la grève du 5 décembre. Elle remet du carburant dans son moteur. C'est Martine Aubry. Elle est candidate à un nouveau mandat de maire de Lille, le 4e. Il faut tenir la barre, dit-elle à La Voix du Nord. Ce qui nous rappelle un vieux slogan, oui. 1974, Giscard à la barre. Le patron d'Amazon France, Frédéric Duval, fait une annonce sur le sujet très délicat des invendus. Il était l'invité de RTL ce matin. Ils pourront être dès l'année prochaine envoyé automatiquement à des œuvres caritatives grâce à un nouveau programme baptisé Donation expédié par Amazon. Aujourd'hui, ces invendus sont en partie détruits.
Dans un instant, ces lois qui ne servent plus à rien. La chasse est ouverte.
Hein. RTL 8h06.
RTL Matin.
RTL 8h07, la suite du journal. Jérôme Florin, Yves Calvi.
Et voilà que l'Assemblée vient d'effacer une cinquantaine de lois devenues parfaitement inutiles.
Jusqu'à hier, le saviez-vous, notre droit était encore régi par des lois datant de Louis XVIII. Ah. Alors, on ne les appliquait plus, mais elles étaient là. Un toilettage était donc nécessaire. Mmh. Ce n'est pas le premier d'ailleurs. Même en son temps, Montaigne écrivait, je le cite, « Nous avons en France plus de lois que le reste du monde ensemble. »
Alors, sachant qu'on en crée toujours, pardonnez-moi de nouvelles, arrive-t-on à réduire le nombre de lois en France? Eh bien, c'est la question du 8h.
C'est avec vous Marie-Bénédicte Allaire, bonjour.
Bonjour.
Comment on les repère, comment on les identifie ces lois?
Alors c'est le Sénat qui a permis ce coup de balai en créant un bureau d'abrogation des lois anciennes inutiles, BALAI, balai, c'est véridique. Des juristes ont examiné tout ce qui a été voté entre 1819 et 1940 et ils ont repéré ce qui se rapportait à des techniques ou des usages qui ont changé. Exemple, une loi qui réprime la fraude dans le commerce du beurre et de la margarine. Oui. Une autre sur le contrôle des appareils à mesurer le taux de sucre dans les betteraves. Une cinquantaine de ces lois ont donc pu être abrogées hier. On va maintenant s'attaquer à la période 1940-1970.
Alors ça, c'est pour la méthode. Est-ce qu'on arrive à dégraisser ce mammouth législatif bien français?
Aussi étrange que ça puisse paraître, personne ne sait combien il y a de lois en France. Et pourtant, tout le monde s'y est mis. Nicolas Sarkozy qui voulait que pour toute loi votée, on en supprime une. François Hollande avec son choc de simplification. Édouard Philippe, lui, demande que pour tout nouveau décret, deux décrets précédents soient supprimés. Résultat, on réduit bien le stock, effectivement. Mais comme on en vote toujours de nouvelles, c'est un puits sans fond.
La question de 8h avec Marie-Bénédicte Allaire.
RTL 8h08.
Alors que le froid arrive dans la moitié nord, la mairie de Paris vient de lancer son plan d'urgence hivernale.
Un premier gymnase réservé aux sans-abri a ouvert dans le 5e arrondissement, mais pour tous ceux qui n'arrivent pas à trouver de solution, le métro reste souvent la dernière option. Ils sont autour de 300 à dormir chaque nuit dans les couloirs du métro parisien. Et ça fait 25 ans que les agents de la RATP viennent à leur rencontre lors de maraudes. RTL en immersion, signé Sinamir.
L'ascenseur, c'est là.
Par les couloirs.
Avec leurs uniformes marron RATP Solidarité, Loïc et Sandra font partie des équipes qui, jour comme nuit, sillonnent les quais et les escalators pour tenter de mettre à l'abri ceux qui y dorment.
Je vois sur la semaine dernière, et qu'il faisait froid, sur la station République, on a eu une vingtaine de personnes. Et on a mis une heure et demie pour faire République. C'est le temps de prendre 5-10 minutes avec un tel. Voilà, on essaye de pallier aux besoins de chacun.
Une vingtaine sur une seule des 302 stations de la capitale.
Souvent Concorde, souvent Châtelet, souvent Pont-Marin.
Et parmi eux, de plus en plus ont un emploi. C'est le cas de Mamadou. À 37 ans, il enchaîne les ménages, mais ne peut s'offrir que le métro comme abri.
Bon, le dimanche, il y a temps plein. Le mercredi, il y a temps plein. Bon, tout le jour maintenant, il fait temps partiel.
Et vous avez arrivé à gagner combien d'argent avec ça?
Peut-être on peut gagner 500 euros par mois comme ça.
Et on a des gens, ça fait des années, qui sont dans le métro, qui touchent des retraites, qui travaillent, qui n'ont pas assez pour avoir un logement.
Donc après la journée de boulot, leur seule préoccupation, c'est de trouver un endroit où dormir au chaud. Une fois qu'ils sont descendus dans le métro, ça met très longtemps à en sortir. Il y en a plein, des fois, qui ont des petits boulots de serveur. Et oui, forcément, s'ils ont passé une sale nuit, ils ont été réveillés 3-4 fois là, dans la nuit dans le métro. Le métro a dû être nettoyé, on les a sortis, ou peu importe. Hein. Par la force des choses, qu'ils perdent leur emploi.
En tout, le SAMU social et la RATP ont pris en charge 2500 personnes différentes l'an dernier dans les stations de la capitale.
RTL en immersion, reportage de Sinamir. Je n'arrive pas bien à voir en quoi je suis coupable. La défense du cardinal Barbarin n'a pas varié d'un iota depuis sa comparution en première instance. Il dit n'avoir rien su. L'archevêque de Lyon est jugé en appel. Il est accusé d'avoir tué les agressions pédophiles du père Prénat. Les victimes dénoncent une transformation de la vérité. L'audience reprend tout à l'heure à 9h.
RTL matin, il est 8h11.
Le général Trinquant ne croit pas à la revendication de Daesh.
L'ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU était l'invité de RTL ce matin. Le groupe État islamique a affirmé hier être derrière la mort des 13 soldats français au Mali. C'est lui, c'est donc Daesh, qui aurait causé la collision des deux hélicoptères. De l'opportunisme, affirme Dominique Trinquant. En Zambie, en Afrique australe, deux homosexuels ont été condamnés à 15 ans de prison chacun. Ils avaient été surpris par une employée d'hôtel. Le président zambien est un farouche opposant à l'homosexualité. Et puis Donald Trump, en visite surprise sur une base militaire en Afghanistan, il annonce avoir repris les négociations avec les talibans et confirme la baisse du nombre de militaires sur place. Le football, il n'y a plus de Français en Ligue Europe. Saint-Etienne n'a pas été capable de marquer un seul but face au club belge de la Gantoise. Score nul, 0 partout. Et puis on va finir par une petite question pour vous autour de la table. À combien estimez-vous le coût moyen d'un pot de départ ?
Je refuse de me prononcer, mais enfin, il y a des limites à tout. Voilà.
Oui. Non, vous ne vous y risquez pas.
300 ?
Ah bon, vous êtes bien raisonnable, bien plus raisonnable en tout cas que l'ancien directeur général des services de la ville de Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine, qui a vu les choses en grand. 300 invités, montant des agapes, plus de 12 000 euros, Yann Boucherie, des petits fours difficiles à digérer.
Oui, 12 000 euros pour 12 ans de bons et loyaux services. C'est le prix du pot de départ du plus haut fonctionnaire de la commune. Un traiteur, les petits plats dans les grands pour cette soirée du 20 septembre dernier dans les salons de l'hôtel de ville. Une facture qui a fait tiquer les syndicats, mais aussi le maire Patrick Ollier que nous venons de joindre.
Oui, quand j'ai vu la facture, quand j'ai vu le pot, le nombre de personnes qu'il y avait, ensuite j'ai demandé à avoir la facture parce que je vérifie tout dans ma mairie. J'ai trouvé que c'était trop important. J'ai dit, monsieur Ka, c'est bien, vous avez fait ce pot, vous invitez tous vos amis, bravo, c'est bien, mais on ne peut pas dépenser tout ça, il faut qu'on fasse moitié-moitié. Et l'accepter, c'est un geste qui me paraît normal, même si c'est plus cher qu'un pot normal, parce que directeur général, il y en a qu'un.
Alors la moyenne pour ce type de manifestation se situe entre 3 et 4 000 euros. Patrick Ollier précise aussi que son plus haut fonctionnaire a œuvré 3 mois gratuitement pour assurer la transition avec son successeur, une économie pour la commune. Selon lui, une tempête dans un verre d'eau, plutôt dans une petite coupette de champagne.
Exactement, merci beaucoup. Yann Boucherie.
On ira tous prendre notre retraite à Rueil-Malmaison, c'est absolument beaucoup plus confortable. C'était le journal de Jérôme Flora.